Marceau. Marceau. Le soir. Avec Marceau.
Radio X.
Non! Vous voulez entendre Marceau? C'est demain matin dès 6h. 88-670-9098 1-877-440-2464. Live commercial RadioX.com. Très content de recevoir en studio. On dirait que chaque fois que je remplace Marceau, je reçois Truck Stop Québec. Je sais pas. Les...
On est cédulés ensemble.
Est-ce qu'il vous fuit?
Je pense qu'à cette heure, il nous fuit.
Ça doit être ça.
Ben, peut-être. Ben, il se dit, il va aller jaser de truck avec Pee-Wee. Puis à un moment donné, on va peut-être intéresser Pee-Wee à devenir camionneur. Qui sait?
Peut-être. Mais non, parce que moi, je suis le gars qui accompagne les camionneurs la fin de semaine avec la meilleure musique rock en ville.
C'est vrai.
La preuve, quand t'étais en Californie.
En Californie, c'était Pee-Wee.
Yes. D'ailleurs, t'arrives en Californie, t'es pas supposé dans la quarantaine, toi, là?
Écoute, l'industrie du camionnage, tout camionneur qui arrive des États-Unis est exempté de la quarantaine. C'est bizarre, hein? Je pourrais arriver de la Floride actuellement et être obligé de faire une quarantaine. J'arrive de la Californie, j'ai mon permis classe 1 et je suis exempté.
On a des plexiglas exprès pour ça.
Ouais.
Pour quand Truck Stop Québec vient en studio.
Oui, mais ils ont blindé. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, ils ont mis plus épais que d'habitude.
Ouais.
Mais honnêtement, est-ce que tu t'es déjà senti pas en sécurité?
Là-bas, pour être bien honnête, là, ben, on a vécu l'élection américaine aussi de la Californie. J'étais avec Pascal Godet de chez Transwest, puis... ce soir-là, on s'est dit, bon, mais ça y est, ça va être la panique générale.
Ouais, t'avais plus peur de ça qu'il y a de la COVID.
Non, pantoute, on dirait qu'il y avait un calme exemplaire aux États-Unis. Ce qu'on nous montre ici est totalement différent de ce que j'ai pu apercevoir là-bas. Moi, je pensais...
C'est justement ce qu'on parlait avec Marc Bellemare, la couverture médiatique, de ce qu'on, de la réalité, comment ça se passait. On montrait juste les gens avec des drapeaux, puis Biden, Biden, c'était le gros party. Puis c'était juste le...
Peut-être localement, là.
Ouais.
Nous, on le périple, on a passé par Thunder Bay en Ontario, on a pris une remorque là, puis après ça, on est descendu dans le Minnesota pour aller à Sacramento, en Californie. Dans le Minnesota, c'est l'État où j'ai vu le plus d'enseignes de Biden versus les enseignes de Trump où on en voit une de temps en temps, puis tout ça.
Okay.
Mais l'État où il y avait le plus d'enseignes de Biden, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'est à côté, ça veut dire qu'il y avait beaucoup de Trump et tout ça. Mais dans le nord des États-Unis, j'ai vu beaucoup de Biden dans le Minnesota et très peu, après ça, dans toutes les autres États, le Montana, etc., aller jusqu'en Californie, très peu d'enseignes de un ou de l'autre. Fait que je me disais, bon, ça va être une lutte serrée puisque personne ne s'affiche.
Mm. C'est vrai que les Américains s'affichent, vraiment.
Alors, ils sont très patriotiques.
Ouais.
Des fois, t'as des rouleaux de Trump ou des affaires de même, mais c'est surtout isolé. Mais le port du masque là-bas, là, écoute, c'est pas la grosse job. Il y en a pas à la tonne. J'ai rentré dans un truck stop avec mon co-driver, puis je pense qu'on était les deux seuls à avoir un masque.
OK.
Y compris la caissière qui a pas de masque.
Oh,
c'était comme ça.
Il y avait pas de plexiglas non plus.
Oui, il y a des plexiglas. Mais, tu sais, on est en file indienne parce que souvent, les truckstops, on arrive tout en même temps. Puis là, on est un groupe de personnes. Il n'y a pas de 2 mètres.
Non, mais non, ça devait être un réflexe pour vous. Parce que moi, je trouve qu'on l'a développé.
Nous autres, on le développe, on l'a. Mais à un moment donné, moi, mon chiffre était... Ben, il se terminait à 3 heures du matin. Puis, mettons, rendu à 1 heure, je disais, bon, j'ai une petite fringale, faudrait que j'arrête d'un truck stop, faudrait que j'irais chercher quelque chose à boire. Je rentrais, puis là, ben, va me chercher un café ou whatever. Et je me retrouve dans une file où la personne en arrière est peut-être à 2 pieds de moi. Puis la personne en avant est peut-être... là, tu sais, je me dis, bon, moi, il laisse 2 mètres. Mais je me fais
l'autre
pousser.
En arrière, il te fait ça, c'est ça, avance?
Non, mais c'est comme avance, t'es puis pas dans des États où c'est rouge, dans des États comme le Nouveau-Mexique où c'est bleu, où tu te dis, bon, ben souvent on se fait dire que les gens qui étaient pro-Biden sont des gens qui portent le masque, qui observent quand même une distanciation sociale. Non, c'est pas vrai. Dans ce que j'ai vu, en Californie, les restaurants, on a voulu aller au restaurant, ben la seule chose qu'il faut faire, c'est d'avoir une distanciation. On est plus proche de la réalité en Californie, mais on mange pas à l'intérieur. C'est à l'extérieur, sous des chapiteaux. Donc, si tu veux aller te chercher une pizza, tu vas aller te la chercher en dessous d'un chapiteau. Et c'est à l'air libre, mais vraiment avec les tables très distancées.
Okay.
Là-bas, on prend ça peut-être plus.
C'est sûr qu'en Californie, on peut se permettre d'avoir des chapiteaux à l'année. Ouais.
Il faisait 25 le soir. Okay. Manger une pizza à l'extérieur, c'est quand même popé.
Ouais.
Mais je dirais que la majorité des États que j'ai parcourus, c'est pas une très forte moyenne du port du masque. On est peut-être moins sensibilisé là-bas. Puis le 2 mètres, visiblement, ben je pense pas que c'est encore établi là-bas.
Juste avant que tu nous présentes ton invité, est-ce l'effet Biden au niveau du camionnage, est-ce qu'il va, il peut avoir des différences avec le changement de gouvernement?
Ouais, c'est une bonne question, mais ce que je pense, c'est que on est habitué. Ben Trump a quand même taxé le bois de rêve, il a quand même taxé l'aluminium, il a taxé d'autres produits. Mm-hmm. Moi, je pense que sous l'ère de Biden, on verra là si quelqu'un peut me contredire, mais j'ai comme l'impression qu'on va peut-être vivre d'autres formes de taxes, parce que on sait que les démocrates sont très « buy American
».
Donc, on risque peut-être d'avoir un peu plus de misère à vendre nos produits, à exporter. Puis ça, c'est difficile pour l'industrie du camionnage, puisque notre travail, principalement, c'est d'aller porter du stock aux États parce qu'on en ramène beaucoup. On achète beaucoup de nos alliés, les Américains. Donc, comme on en achète beaucoup, ben il faut aller porter du stock. Mais quand tu n'en as pas, faut que tu sois capable de rentabiliser ta run aller-retour. Donc, va falloir augmenter des prix, va falloir augmenter. Puis qui paye, c'est toujours monsieur et madame tout le monde qui nous écoute à soi. Fait que c'est là le problème. Moi, ma crainte, ben, c'est pas qu'un ou l'autre gagne, là, ça a peu d'incidence, mais c'est que on nous enlève du travail dans notre industrie du camionnage, c'est qu'on taxe plus de produits, puis qu'on dise ben buy America. T'sais, c'est sûr qu'une table faite au Québec, ben c'est avec du bois du Québec. Mais si elle est faite en Nouvelle-Angleterre avec du bois de la Nouvelle-Angleterre, ben ils vont la choisir avant la note. Même s'il y a peut-être 34 % de taux de change actuellement, ce qui est mieux pour eux autres, qui est peut-être un 28 % là, à l'achat, tout ça. Fait que, tu sais, ils ont peut-être une bonne façon d'acheter du stock actuellement, puisque c'est à rabais, sauf que on va sûrement les pousser à acheter américain dans les prochains mois. On verra, peut-être j'ai tort, là, mais...
Seul l'avenir nous le dira, comme dirait quelqu'un.
Oui, j'espère.
Tu nous as amené un invité en studio. Je te laisse le présenter, Benoît.
Ben en fait, nous, dans l'industrie du camionnage, on a des contrôleurs routiers. Les contrôleurs routiers, je vais laisser Jonathan nous dire c'est quoi, mais on a quand même des règles à suivre. On peut pas être des bad boys, pis on peut pas faire n'importe quoi. Pis
ah non?
On se dit professionnel, ben faut rester professionnel. Puis quand on l'est pas... Ben, on a des contrôleurs routiers qui peuvent nous donner des infractions, tout ça. Puis c'est Jonathan Beauvais de Contrôle Routier Québec qui est avec nous en studio.
Merci d'être là. Oh, on peut tourner le micro du doseur. Chloé, tu peux t'en occuper, s'il te plaît?
Ouais, ça a juste un sens, ces micros-là. C'est la haute technologie. Bonsoir.
All right. Testing 1-2. Bienvenue dans le studio de Radio X, Jonathan.
Merci beaucoup, ça me fait plaisir d'être là.
Donc, contrôleur routier à temps plein?
À temps plein.
Oui. Le Donc, rôle.
En fait, je vous explique rapidement, pour les gens qui savent pas c'est quoi, Contrôle routier, c'est une agence d'application de la loi qui relève de la Société de l'assurance automobile du Québec. Et notre rôle à nous, c'est le contrôle du transport des personnes et des biens. Donc là, évidemment, quand on parle de transport de personnes et de biens, on va penser tout de suite les camions, les autobus, les taxis, les Uber, etc. Donc oui, ça fait partie de notre mandat. C'est notre travail principal, évidemment. Contrôle routier a trois grandes missions dans son mandat, c'est-à-dire c'est d'assurer la sécurité des usagers de la route. Donc, évidemment, on parle de sécurité routière ici. Il y a aussi la protection du réseau routier. Donc, on va s'assurer, par exemple, on est responsable des postes de contrôle, donc les balances qu'on voit sur les autoroutes. Mm-hmm. Évidemment, c'est Contrôle routier qui opère ça. Donc, évidemment, on va s'assurer que les transports ont des charges qui respectent la réglementation pour pas abîmer le réseau routier. Mais on va aussi veiller au maintien de l'équité concurrentielle dans le domaine de l'industrie du transport. Donc, c'est là où on devient, pour les gens de l'industrie, un peu important quand même parce que on vient réglementer ce qui se passe et s'assurer que tout le monde respecte les mêmes règles puis qu'on joue avec les mêmes règles, tout le monde. Évidemment, on peut aussi intervenir auprès de différents types de véhicules. Lorsqu'on va voir, par exemple, un véhicule de promenade avec un chargement tout croche, avec des choses qui peuvent tomber. Mais nous aussi, on va pouvoir intervenir à ce moment-là.
Comme lors du déménagement de Pee-Wee quand le condo va être vendu. Là.
Exactement.
Un jour.
C'est important parce que si vous êtes là, c'est parce qu'il y a des gens qui abusent puis il y a des gens qui s'essayent toujours. Fait que vous êtes en mesure de donner des infractions à ce niveau-là.
Exactement. C'est notre rôle, c'est vraiment ça. C'est vraiment de faire le contrôle du transport des personnes et des biens puis des marchandises. Donc, évidemment, on va parler d'arrimage des cargaisons. On va parler, par exemple, dans le milieu du camionnage, des heures de conduite. On peut parler des charges et dimensions. Mais on va aussi appliquer le code criminel dans certaines situations. Donc, évidemment, quand on parle de conduite faculté affaiblie, donc c'est des choses qu'on va pouvoir intervenir aussi. Donc, notre rôle, il est très diversifié. Puis, c'est le notre mandat est très diversifié sur les types de véhicules sur lesquels on peut intervenir. Donc, tout ce qui est commercial, on va pouvoir intervenir aussi. Ça, c'est vraiment dans notre rôle.
Fait que c'est vraiment... Vous avez pas de radar. Vous faites pas d'opération sèche-cheveux, vous autres. C'est mettons, sur les autoroutes, c'est la Sûreté du Québec qui s'en occupe. Vous, c'est vraiment plus au niveau de... plus pousser les règles, la réglementation. Si on fait une comparaison avec les deux, là...
En fait, on peut faire du radar, évidemment. On a des contrôleurs routiers qui sont formés pour utiliser là, les cinémamètres laser.
Okay.
Mais évidemment, on va faire ce type de contrôle-là uniquement sur les véhicules lourds. Donc, on fera pas d'opération vitesse, si vous voulez, avec les véhicules de promenade. Par contre, on collabore régulièrement avec les corps policiers. Donc, on va faire des opérations conjointes où on va faire des vérifications de vitesse. Nous, on va s'occuper, évidemment, des véhicules de notre mandat et les policiers vont s'occuper des véhicules de leur mandat.
Puis pour monsieur et madame tout le monde, des fois, qui s'informent comment ça se fait que les trucks, ça roule pas vite, puis tout ça.
110.
105.
105 maximum. Donc, c'est pour ça que
moi, c'est surtout pourquoi vous vous dépassez, là, qui me chicote, là.
Ben, c'est un peu comme quand tu vas t'en aller à soir. Mettons, si tu t'en vas ça à 20 ou ça à 40, puis qu'il y a deux camions qui prennent 8 km à dépasser, c'est parce qu'un roule 104,9, l'autre 104,7.
Mais c'est ça, ça gosse?
C'est parce qu'il y en a un qui devrait juste slacker le gaz. Enlever juste une coche dans le cruise control. Puis ça prendrait moins de temps. Mais on dirait qu'on est tous pressés, puis tout ça. Mais de plus en plus, les gars et les filles qui sont dans l'industrie sont sensibles à ça. Ils se disent, bon, OK, il y a du trafic. De toute façon, je vais arriver 30 secondes
ouais,
plus tard. C'est pas bien, bien grand. Puis c'est pour ça que l'application des radars pour les contrôleurs routiers, si on a de la concurrence des fois des autres provinces, mais il y a des compagnies de transport des autres provinces qui arrivent ici, puis même moi, des fois, je les suis, puis je dis, mon Dieu, il est à 112. Ben, s'il y a un contrôleur routier qui fait une opération radar, lui, il va le voir.
Ils sont assujettis à la réglementation du Québec?
La même réglementation. Okay. Le 105, qui est pour tous les camions lourds au Québec. Donc,
même ceux qui arrivent de l'extérieur? Ceux de l'extérieur ne sont pas barrés à 105. Mais ils n'ont pas le choix.
En fait, c'est peut-être tabou, là, puis peut-être que tu peux m'aider là-dessus, mais... on pourrait activer une switch au Québec, on se barre à 105, puis rendu, je sais pas, dans l'état du Vermont, enlève la switch, puis là, on pourrait remonter d'une vitesse sans être trop... faut activer un limiteur de vitesse au Québec.
En fait, au Québec, quand le véhicule circule, faut qu'il y ait un limiteur de vitesse qui soit activé à 105 km/h. Donc ça, c'est la réglementation que nous, on applique. Donc évidemment, les véhicules qui arrivent, par exemple, de l'Ontario ou qui arriveraient d'ailleurs aux États-Unis, peu importe, ils doivent, lorsqu'ils circulent au Québec, avoir un limiteur de vitesse qui est activé à 105 km/h.
Mais au Vermont, on a le droit de rouler à 110, mettons, quand on arrive du Québec?
J'arrive de la Californie sur la 40, là, disons, hein, sur le Nouveau-Mexique, Texas et tout ça. Là. Il y a des camions qui m'ont dépassé. Puis dans le système, j'en parlerai plus tard, là, mais dans le camion là, où on circulait, on avait comme un genre de radar qui me permettait de savoir la vitesse du véhicule qui me précédait. Puis des fois, il me dépassait dans votre gauche, je me tassais, puis là, je checkais dans mon petit speedomètre. Puis ça me disait, mettons, 150, 152. Hein? Fait que les camions, c'est pas barré aux États-Unis.
OK. Là. Mais le tien, est-ce qu'il est barré
105.
Ou
tu peux... OK. Nous autres, on
a fait du 105 partout où c'était possible de le faire. Puis on met le cruise control. Puis 105, c'est une bonne vitesse.
Mais, oui. Mais nul n'est censé ignorer la loi. Donc ceux qui arrivent de l'extérieur sont supposés être au courant que quand tu arrives au Québec, c'est 105. Ils peuvent pas arriver. Il n'y aura pas de passe-droit pour dire ils roulaient à 120. Oh, je savais pas. I didn't know that.
Non, exactement. Il n'y a pas de passe-droit. Évidemment, il y a de la signalisation aussi lorsqu'on rentre au Québec.
On traverse
dans la province,
les douanes.
On traverse les lignes. Il y a des panneaux de signalisation qui affichent l'obligation du 105 km/h pour les véhicules lourds.
Contrôleur routier, en temps de pandémie, est-ce que vous avez eu des changements dans vos habitudes de faire?
Ben, évidemment, on a changé certaines de nos pratiques. On essaie le moins possible de manipuler les documents d'un conducteur. Donc, par exemple, avant, on prenait vraiment le permis de conduire, les enregistrements dans nos mains, on partait avec ça faire des vérifications. Évidemment, maintenant, on va essayer de le demander au conducteur juste de nous les montrer. On va prendre les informations en note. Donc, on essaie de maintenir, évidemment, aussi la distanciation sociale, le 2 mètres, le désinfectant, le fameux
Purel
ou les solutions hydroalcooliques. Évidemment, on est devenus des abonnés, donc on en utilise fréquemment, tous les jours, avant chaque intervention, après chaque intervention. Le port du masque aussi, qui est devenu quand même monnaie courante dans beaucoup de nos interventions. Parce que quand on n'est pas capable d'avoir une distance de 2 mètres... puis qu'on doit avoir des contacts plus rapprochés avec les conducteurs, mais évidemment, dans ce moment-là, on va porter le masque, on va demander aux conducteurs de porter le masque aussi. La quasi-totalité des conducteurs avec qui moi j'ai eu affaire depuis le début de la pandémie ont un masque avec eux. Je pense que c'est obligatoire partout de toute façon, dès qu'on rentre à l'intérieur. Donc, tout le monde en a. Fait que c'est des petites choses comme ça qu'on a dû adapter. Mais sinon, ça se passe quand même très bien. Les gens sont très collaboratifs. Il n'y a pas vraiment de problème.
On a parlé dans les dernières minutes de la collaboration avec la Sûreté du Québec. Souvent, vous pouvez travailler en équipe. Si la SQ a besoin de vous autres pour un certain dossier ou etc. Benoît, tu m'as envoyé le dossier que le 24 septembre dernier, vous étiez nombreux entre Rimouski et Longueuil. C'était quoi l'opération que vous aviez avec les policiers?
En fait, à la fin septembre, il se tenait l'opération nationale concertée sur la distraction au volant. Donc, il y avait une opération où tous les corps de police de la province du Québec, là, y compris contrôle routier, la Sûreté du Québec et tous les autres, menaient des opérations et une campagne de sensibilisation par la Société de l'assurance automobile du Québec sur la distraction. Et à ce moment-là, à l'initiative de la Sûreté du Québec, ils ont décidé de faire une vaste opération là, qui couvrait justement le secteur de Rimouski jusqu'à Longueuil, donc sur tout le tronçon de l'autoroute 20, où on était là en présence pour faire des vérifications auprès de différents véhicules, donc les véhicules lourds, véhicules de promenade, etc. Donc c'est vraiment ça qu'on a fait pendant cette journée-là. Et pendant cette journée-là, il s'est donné environ là, autour de 400 constats d'infraction, évidemment durant toute la journée, c'est sur un très long tronçon de route. Sur les constats d'infraction, il y en a beaucoup qui concernaient évidemment la vitesse. Quelques-uns concernaient la ceinture de sécurité et la distraction, évidemment, donc le fameux cellulaire au volant. Donc, il y a eu quand même beaucoup d'infractions qui ont été émises.
Mais ça, le cellulaire au volant, des fois, les gens doivent s'obstiner un peu en disant « Ah non, c'est pas vrai, je l'avais pas » ou « Je sais pas ». Tu sais, à ce moment-là, si vous l'avez vu, si la personne... Il faut qu'elle aille contester en cours. C'est...
Exactement. Ouais. Lorsque nous, on le constate, on émet le constat d'infraction, la personne a toujours le loisir d'aller contester l'infraction ou de plaider coupable. Ça, c'est à la discrétion de la personne. Donc, si la personne choisit de plaider non coupable, elle peut contester le constat. Et ça,
c'est tout un loisir. C'est vraiment le fun.
Oui, effectivement, c'est pas quelque chose.
On n'est pas supposé. Mais moi, j'aurais une question. Outre le cellulaire, je sais pas moi, lire le journal, tout ça. Y a-tu des distractions au volant qui sont... Des fois, tu dis, ben voyons où t'avais la tête aujourd'hui, là, tu sais.
Mais la distraction au volant, on peut parler... Quand on va parler de juste purement la distraction, ça va être d'autres choses. Si on parle de réglementation, évidemment, l'article de loi qu'on applique, c'est le fameux téléphone cellulaire tenu en main, donc le fameux texto où on parle au téléphone. Mm-hmm. Mais la distraction, c'est beaucoup d'autres choses. Hein. La distraction, ça peut être cognitif, ça peut être visuel, ça peut être auditif, puis ça peut être manuel. Donc, quelqu'un qui mange un hamburger en conduisant puis qui prend une liqueur en même temps, mais évidemment, il conduit pas tant que ça. Là.
Conduit que ses genoux.
Il conduit que ses genoux.
C'est pas conduire. Hein?
C'est ce qu'on appelle la distraction manuelle. À la limite, quelqu'un qui change, par exemple, évidemment, maintenant, c'est un peu moins le cas, mais qui change le CD dans son véhicule ou qui va changer la chanson sur son dispositif d'MP3, bien évidemment, à ce moment-là, il manipule quelque chose. Il n'a pas les deux mains sur le volant. Il n'est pas en complet contrôle de son véhicule. Donc là, on va parler de distraction manuelle. Distraction cognitive, là, et ça arrive fréquemment, ça veut dire je parle en main libre au cellulaire. Donc évidemment, j'enfreins aucune règle, il n'y a pas de problème, je suis en main libre. Mon cellulaire, il est sur le main libre, il est dans mes poches, c'est le main libre de l'auto. Puis je suis en train de parler avec ma conjointe qui me dit, là, tu t'en reviens à la maison, il faudrait que tu achètes une pinte de lait, un pain, du Nutella pour les enfants, puis une boîte de céréales de telle sorte. Moi, dans ma tête, présentement, là, je suis en train de me faire une liste d'épicerie, là. Je suis plus en train de conduire.
Tu sais dans quelle allée tu vas y trouver à part de ça.
Je ne suis plus attentif à la conduite parce que je suis en train de me dire, hey, il faut que j'oublie la pinte de lait. Il va en manquer demain matin, ça marchera pas. Je vais me le faire dire, t'as encore oublié. Donc évidemment, puis ça arrive, c'est des situations qui arrivent à tout le monde. Personne n'est exempt de ça. Donc évidemment, là, on va parler de distraction cognitive. Pis distraction visuelle, ben, c'est quand visuellement, on n'est pas attentif à la route. Donc si on regarde, par exemple, je sais pas, justement le journal qu'on disait tantôt, quelqu'un qui regarde le journal, mais il conduit, il regarde plus en avant, il est plus en train de conduire.
Donc, vous pouvez donner des amendes même cognitives.
Malheureusement, l'article de loi, l'infraction, c'est vraiment au niveau du cellulaire au volant.
Okay.
On va parler aussi des tablettes numériques, là, donc tout ce qui est équipement numérique. Mais les distractions visuelles, manuelles, cognitives, ceux-là, ben c'est pas réglementé. Okay. Mais c'est quand même des choses de sensibilisation qu'on va apporter. Mm-hmm.
Parce que quelqu'un qui roule à 90, mettons, sur une route, on peut pas voir... qui est en train de parler avec sa conjointe, qui est en train de se faire une liste d'épicerie, fait que c'est impossible à prouver.
C'est ça, ouais.
C'est difficile à contrôler, effectivement.
Mais j'ai de la misère aussi à croire qu'il y a des gens qui ne portent toujours pas leur ceinture de sécurité en 2020. Je pense que s'il y a de la sensibilisation qui se fait depuis des années, c'est le port de la ceinture de sécurité, puis il y a encore des gens qui n'osent pas la porter. Il me semble que c'est...
Puis qui vont t'ostiner qu'ils n'ont pas besoin.
Ah ouais, en camion?
Ouais. Dans le camion... Je sais pas, je devrais dire. Bon, on va le dire. C'est tabou un peu, là, mais souvent on se dit, si je suis pas attaché, j'ai un accident, ça va me sauver la vie, parce que moi, dans cette boîte de conserve-là, si je suis attaché, je serai jamais capable de sortir. Puis ça, c'est le mythe qui est entretenu dans l'industrie du camionnage depuis trop longtemps. Je pense que c'est prouvé. La ceinture de sécurité a sauvé énormément, beaucoup plus de vies qu'elle a nuit à des vies. Puis, dans un camion, imaginez-vous, là, vous percutez quelque chose puis vous allez faire du tonneau en camion. Je peux vous dire une affaire, d'après moi, vous allez tourner longtemps, vous allez vous blesser. La ceinture, elle va vous tenir attachée à votre siège. Puis le siège, généralement, il est pas bien loin du frame de truck, fait qu'il va vous tenir pas mal. Ça se peut, oui, que vous soyez blessé. Ça dépend toujours de la gravité de l'impact. Mais la ceinture de sécurité, ça sauve des vies. Arrêtez de penser que c'est le contraire.
Il y en a qui se disent souvent, je suis assez gros, il m'arrivera rien, c'est les autres qui vont avoir mal. Ça paraît un peu inhumain de dire ça, là, mais c'est comme ceux qui disent, ah, moi, dans la neige, j'ai mon Jeep, j'ai mon 4x4. Non, tu vas juste aller plus loin dans le banc de neige.
Aller plus
autres.
Loin, tu vas peut-être te faire aussi mal. Pis
ben oui.
Ça, le poids n'a pas d'incidence sur la gravité si la ceinture de sécurité n'est pas portée. Tu vas juste peut-être te faire plus mal. Puis ça se peut aussi que tu roules dans le camion. Puis il faut savoir que dans un camion de type camion de highway, là où on va aux États-Unis avec, il y a des micro-ondes là-dedans, il y a ta valise, il y a plein de stocks qui vont tourner avec toi. Ouais. Là, t'sais. Attaché, c'est correct, là, t'sais, tu vas peut-être avoir moins de chance, mais si tu roules avec un micro-ondes, tu roules avec un frigidaire, tu vas te blesser, puis tu vas...
C'est l'idéal, c'est d'attacher ça aussi, ouais. J'imagine, là, le micro-ondes puis le frigidaire.
C'est
puis...
attaché, oui, okay. Mais avec un impact à un moment ouais. donné, puis... La ceinture n'a pas été inventée pour comme parure dans ben un non, véhicule. Elle est inventée.
Ben en taxi aussi, on entend ça. Là. Comme passager dans un taxi, faut-tu être attaché ou pas?
Faut être attaché dans un taxi aussi. Comme
il y en
passager.
A souvent des chauffeurs de taxi qui disent « Ah, oh, ben non, c'est correct, mais sans. »
Mais non, non, tout le monde doit être attaché dans un taxi.
Ouais. Même un Uber.
Même dans un Uber, peu importe, évidemment.
Je sais pas de où puis... on tient ça. C'est peut-être l'autobus, les autobus scolaires, on n'est pas attaché. Autobus de ville non dans, plus, dans comme transport en commun.
Les autobus aussi de transport interurbain. Ben, lorsqu'ils ne sont pas munis de ceinture, ben évidemment, on ne s'attache pas. Par contre, lorsqu'il y en a qui sont présents, on doit les porter.
OK.
Donc, effectivement.
Surtout qu'il y a une ceinture, il faut s'attacher.
Oui. Exact.
J'ai une question un peu stupide, là. Je la pose, elle me vient en tête comme ça. Tu es dans un taxi, tu n'es pas attaché. Le taxi se fait arrêter. Le policier voit que le passager en arrière n'a pas sa ceinture. Est-ce que c'est le conducteur qui reçoit un ticket et la personne en arrière ou...
Ça va être la personne qui ne porte pas sa ceinture de sécurité ouais, qui va recevoir le constat d'infraction. Évidemment, quand on parle de mineur, à ce moment-là, ça pourrait être le tuteur légal ou le conducteur qui pourrait avoir l'infraction selon la situation.
Mais ça, ça fait pas longtemps que ça a changé. Avant, c'était le conducteur justement qui payait pour toutes les ceintures qui étaient détachées. Non,
ça fait quand même assez longtemps que c'est comme ça. Moi, j'ai pas eu connaissance que c'était pas comme ça. Donc, évidemment, là, c'est la personne. Comme on prend, moi, je vais prendre un taxi tantôt. Ben, je suis responsable de porter ma ceinture de sécurité.
Ah.
Au chauffeur de taxi, dites à vos passagers de porter la ceinture.
Pour leur
bien. De toute façon, c'est pas vous qui aurez l'infraction, ça sera votre passager s'il refuse.
Hey, on s'arrête quelques instants, une première pause, puis au retour, on continue l'entretien. On va parler, entre autres, des véhicules qui sont retirés du marché, parce qu'il y en a qui peuvent être tout simplement retirés. On poursuit avec Benoît Thérien et Jonathan Beauvais, contrôle routier Québec, dans Marceau Soir.
Marceau, le soir.
Radio X.
Jeff.
Qu'est-ce que ça veut dire pour M. Labeaume? Il me semble que c'est une claque au visage. Qu'est-ce que ça fait pour lui?
Ah ben, c'est une défaite très dure pour le maire Labeaume. C'était son projet qui allait le définir. En fait, c'était son leg politique. Là. Et là, on vient de lui dire ton projet, il tient pas la route.
Jeff Fillion. Lundi au vendredi, 11h30.
Radio X.
Une présentation de Laval Volkswagen où la voiture électrique la plus fun à conduire est au prix d'une auto à essence. Et oui, la e-Golf est à vous pour moins de 26 000 $. Vous pensez Volkswagen, pensez Laval Volkswagen.
Jusqu'au 24 novembre, chez Rôtisserie Fusée, l'assiette de trois tendres filets de poitrine de poulet accompagnée d'une généreuse portion de frites est à seulement $8.95. Seulement $8.95 pour l'assiette de trois tendres filets de poitrine. Ça, c'est une belle promotion. Signé Fusée.
Vous êtes une entreprise de service et vous gérez des bons de travail? Servex est pour vous. Parfaitement intégré à Acomba, Servex vous permet de gérer vos techniciens sur la route, calendrier, feuille de temps et inventaire. Servex, votre service, notre solution. Servex.ca.
T'as dernièrement perdu ton travail à cause de la pandémie? Tu désires changer de carrière pour un emploi plus motivant avec un excellent taux de placement? Ben Environ Québec t'offre des formations qui, en l'espace d'un an, peuvent changer ta vie. Nos DEP en charpenterie, menuiserie, électricité, plomberie, chauffage, soudage, montage et notre petit dernier, soutien informatique, font partie des diplômes les plus en demande en ce moment sur le marché du travail. Ne manque pas le début des cours, le 25 janvier. tous les détails sur avironquebec.com.
Aviron bâti chez nous ton avenir.
Salut, c'est JC.
Ouellet.
À 20h, c'est Ouellet en direct.
En direct.
Il y a des invités, il y a des chroniqueurs, puis il y a Camille. À tantôt.
Radio X.
Les pneus Nokian Tire, une légende. Le AKR 300 crampons conçu pour des véhicules sportifs à haute performance. Le AK9 avec crampons qui s'adapte aux pires conditions hivernales. Le Norman, fiable et durable. La gamme de pneus Nokian, disponible chez les Tourneaux Services de pneus mécaniques, boulevard Amel.
Le burger américain à Jeff a tellement été un succès que le Cosmos le prolonge en novembre. Bœuf, bacon, cheddar orange, champignons sautés, cornichons, mayo, laitue, tomate et oignons rouges, seulement 18$, disponible en livraison via Uber Eats, Skip the Dishes et DoorDash. Allez le chercher et obtenez 20% de rabais. Le burger américain à Jeff, en rappel, en novembre, dans vos deux Cosmos. Commandez-le en ligne à lecosmos.com.
Le One Two Punch.
On est en plein One Two Punch.
Avec Jeff Fillion.
Bon jeudi, Jeff, comment ça va?
Et Dominique Morin.
Toujours bien, toujours bien.
À tous les jeudis, dans Morin Live.
Radio X.
Présenté par santé247.ca, qui vous permet d'accéder à une infirmière ou un médecin rapidement. 24 sur 24, à peu de vrai. Santé247.ca pour vous abonner. Marceau le soir, présenté par Bière sans limite. La livraison de bière et de vin est disponible partout à Québec grâce à J. Martel. 7 jours sur 7 jusqu'à 21h. Bièresanslimite.com.
La radio talk, la plus écoutée par vous, les gens de Québec. Avant, maintenant, tout le temps.
À Québec.
À Québec, c'est toujours choix. 98.1. Oh, Radio X. L'original. Marceau. Marceau. Le soir. Avec Marceau.
Non. Radio X.
Non. Marceau va être là demain matin, 6h, pour animer Morel Live.
C'est quoi ton petit nom à toi?
Moi, c'est Yannick. On change 4,30 sous pour une pièce, qu'ils disent. Ouais. Oui, un Yannick pour un autre. C'est juste le nom de famille qui change. Puis moi, j'anime les légendes du rock la fin de semaine. Puis c'est Jordan qui va être en charge de la tribune libre de Radio X. C'est compté de 22h. En studio, Benoît Thérien de Truck Stop Québec et Jonathan Beauvais, contrôle de contrôle routier Québec. On l'a teasé avant de partir à la pause, les véhicules qui sont saisis, parce qu'il n'y a pas longtemps, vous avez fait un blitz d'inspection sur les freins partout en Amérique du Nord. C'est 43 565 véhicules lourds qui ont été inspectés. Combien parmi tous ces véhicules-là ont été retirés de la route parce qu'il n'y avait pas des bons freins?
En fait, la statistique qu'on vient d'entendre, le 43 565 véhicules, c'est les véhicules qui ont été inspectés partout en Amérique du Nord. Donc, évidemment, on va parler des États-Unis, le Mexique et le Canada. Et de ceux-là, il y a eu 12 % des véhicules qui ont eu des mises en service. Donc, c'est-à-dire que les véhicules ont été retirés de la route pour une cause mécanique. Et la cause mécanique en question était le système de freinage. Donc, c'est 12 % des véhicules de ça qui ont été mis hors de service pour un
bris. C'est beaucoup pareil, 12 %
C'est quand même une bonne quantité.
À ce moment-là, est-ce que c'est des entreprises en particulier qui sont un peu plus négligentes? On veut sauver des coûts? Est-ce qu'il y a Benoît, y aurait-tu un lien entre tout ça? Y a-t-il une explication?
Peut-être Jonathan peut me corriger, mais ce que je pense, c'est qu'il y a aussi là-dedans peut-être une incompréhension d'un système de freinage pneumatique d'ajustement. Aussi le fait que, des fois, le camion est parti longtemps sur la route. On laisse un petit peu de lousse au camionneur de faire une inspection. Puis, à un moment donné, quand l'incompréhension est peut-être moins là, le système va freiner. Il freinera peut-être pas adéquatement. Il va peut-être freiner. Puis, dans la cabine, ça freine. Hein, ça marche. Mais souvent, je pense que c'est incompris, le système pneumatique, les ajustements. Puis...
C'est beaucoup au niveau de l'ajustement du système de freinage pneumatique où on va retrouver beaucoup de défectuosité mécanique là, qui vont faire en sorte que le véhicule va être majeur. C'est-à-dire que le freinage, le taux de friction se fera pas de façon assez importante pour freiner le véhicule de façon adéquate. Évidemment, en situation normale de conduite, un conducteur s'en rendra probablement pas compte parce que il freine pas beaucoup, les camionneurs. Évidemment, ils font le plus possible ralentir le véhicule, la décompression, puis on va essayer de pas freiner ou de freiner le moins possible.
Ce qu'on appelle le jake brake.
Ouais.
Exact. Mais quand on va arriver à vouloir freiner dans une situation d'urgence, bien évidemment, c'est là que ces défectuosités mécaniques-là vont s'en ressentir. Ou si, par contre, on doit descendre plusieurs pentes là, consécutives, où là, le système peut avoir tendance à surchauffer. Évidemment, quand ça surchauffe, il y a une expansion du système de freinage, donc du, on va le dire en anglais, là, du drum qui va se faire. Puis là, ben, à ce moment-là, le freinage...
Dans les grosses côtes, comme mettons, je pense à la côte des éboulements, là, où ça sent le rubber.
Oui, exactement. À ce moment-là, le système de freinage pourrait être surtaxé, donc il pourrait se surchauffer, puis là, bon, on pourrait éventuellement manquer de frein. Donc, évidemment, nos mises en service sont faites en sorte, ou en fait, les inspections qu'on fait nous font en sorte qu'on va vérifier les véhicules ou les systèmes de freinage, puis on va les mettre en défectuosité mécanique majeure lorsque la défectuosité pourrait être dangereuse.
Il y a des conducteurs qui doivent s'obstiner un peu, hein? Des fois, disent, non, on t'enlève de la route. I gotta go.
Je vous dirais qu'ils sont pas nécessairement toujours très contents, mais évidemment, c'est pour leur sécurité aussi. Ouais. Donc, ils vont faire la réparation, puis après, ils peuvent repartir. Pour continuer juste avec des statistiques
là-dessus,
par exemple, on a donné les statistiques, évidemment, nord-américaines, mais j'ai aussi les statistiques au Canada et les statistiques au Québec. Donc, pour ce qui est du Canada, il y a eu 1829 inspections des 43 000 qui ont eu lieu au Canada. Puis de ceux-là, il y avait 14 % des véhicules qui ont été mis hors service pour le système de freinage. Donc, le pourcentage au Canada est un petit peu plus élevé que celui des États-Unis. Par contre, ça se maintient quand même, 12-14 %. Puis au Québec, il y en avait 740 inspections des 1800 qui ont eu lieu au Québec. Puis le taux de mise en service était de 11 % au niveau des défectuosités pour les freins.
Yeah! On est meilleur.
Oui, on est toujours meilleur dans quelque chose.
On est plus sécuritaire.
Donc, on a un meilleur bilan que la moyenne canadienne. Donc, évidemment, ça démontre un certain sérieux de l'industrie.
Est-ce que le fait d'avoir des contrôleurs routiers présents au Québec, puis que vous fassiez des interceptions, là, puis même des road checks de même, là, des inspections aléatoires, est-ce que ça fait en sorte que ça baisse un petit peu le pourcentage qu'on a des meilleurs scores en bon français versus peut-être d'autres provinces canadiennes où là, ben, tu sais, on a peut-être moins de ce qu'on appelle les DOT ailleurs, là. Est-ce que le fait que vous soyez plus présent fait en sorte qu'on rabaisse un petit peu, on augmente le niveau de sécurité sur nos routes?
Moi, je pense que c'est un tout, en fait. Il n'y a rien qui fonctionne tout seul. Donc, évidemment, oui, le travail des contrôleurs routiers a un impact important sur la sécurité routière puis sur le transport en général. Évidemment, ça, on va permettre probablement d'accroître ou de retirer certains véhicules qui ne devraient peut-être pas être sur la route là. Mais évidemment, il y a aussi une prise de conscience de l'industrie que c'est important de travailler puis de s'assurer de la sécurité des véhicules. Puis, il y a aussi une meilleure collaboration entre l'industrie, contrôle routier. On se parle, on est à l'écoute des besoins. On fait contrôle aussi, on fait beaucoup de prévention, sensibilisation aussi. On ne fait pas que des interventions de contrôle. Donc, évidemment, on va venir sensibiliser les gens à différentes problématiques que nous, on va constater sur la route, puis on essaie de sensibiliser les gens de l'industrie pour qu'ils améliorent le bilan routier. Mmh. Parce qu'évidemment, l'objectif au global, c'est évidemment c'est qu'il n'y ait plus d'accidents sur les routes.
Chloé, tu avais cerné quelques questions par texto?
Effectivement, il y a quelqu'un qui demande un véhicule de promenade avec un trailer artisanal rempli de sable. Doit-on couvrir le voyage? Quelle est l'amende s'il y a lieu? Est-ce que c'est la même chose aussi avec du gravier qui n'est pas volatile?
En fait, cela va être la même chose pour peu importe le chargement. Il doit être retenu de façon à ne pas pouvoir s'échapper du véhicule. Donc, évidemment, si on transporte du sable ou du gravier, mais il va être devoir retenu par une bâche ou par une toile ou par un système d'arrimage quelconque qui va empêcher le sable de partir là, au vent ou de tomber sur la chaussée. Donc, c'est la même article d'infraction pour chacun des chargements, alors que ce soit des morceaux de bois qui sont pas attachés ou peu importe, ça va toujours être la même chose. Et l'article de loi, c'est l'infraction est de 350 $ plus les frais. Donc, ça fait une infraction de près de 500 $.
Est-ce que contrôle routier peut arrêter un véhicule personnel avec une remorque de sable?
Oui, tout à fait. Comme je vous disais en entrée de jeu, au début de l'entrevue, quand j'expliquais un peu notre rôle, en fait, c'est qu'on peut intervenir auprès des véhicules de promenade également. Quand ça va concerner une des interventions, par exemple, l'arrimage, les charges de dimension, le transport de matières dangereuses, par exemple, une infraction criminelle, par exemple, comme la conduite en état d'ébriété. Donc, c'est des éléments où on va pouvoir, puis évidemment, l'état mécanique aussi, ça fait partie des éléments auxquels on pourrait intervenir auprès d'un véhicule de promenade.
Il y a un autre auditeur qui demande, est-ce qu'un camionneur avec 11 ans d'expérience et 3 ans d'expérience en mécanique lourde peut devenir contrôleur routier sans diplôme d'études secondaires?
Oui, je faudrait voir, mais à ma connaissance, oui, là, tous les critères pour savoir qui peut devenir contrôleur routier sont sur le site de la Société de l'assurance automobile du Québec dans la section contrôle routier. Okay. Il y a une belle petite section qui dit devenir contrôleur routier. Donc, les gens peuvent aller s'informer là. Les critères, là, de demande sont là. Donc, évidemment, normalement, on demande un secondaire 5 et une année post-secondaire, mais les années peuvent être compensées par des expériences qui sont,
Pourquoi pas aller chercher une équivalence de secondaire 5 aussi, ça pourrait être une option.
Avez-vous une pénurie de main-d'œuvre dans les contrôles routiers? Ça va-tu bien à ce niveau-là?
Non, ça va bien à ce niveau-là. On a des nouveaux contrôleurs routiers qui ont gradué de l'École nationale de police du Québec en mars dernier. Donc, on a des contrôleurs routiers tout nouveaux sur la route depuis mars. Donc, on a des cohortes comme ça. Évidemment, en temps de pandémie, là, c'est un peu compliqué les concours du gouvernement. Nous, On travaille pour le gouvernement, mm-hmm. donc évidemment, c'est par le principe de concours d'examen. C'est sûr que présentement, c'est arrêté, mais il y a des examens régulièrement. Donc évidemment, quand ça va reprendre, j'imagine qu'il va y avoir une séance d'examen là, pour les contrôleurs routiers qui va se faire. Puis il y aura probablement prochainement une autre cohorte éventuellement.
Et ceux qui arrivent sur le marché du travail, les nouveaux, est-ce qu'ils ont des jobs à temps plein ou ils vont commencer, je travaille juste les fins de semaine, je sais pas, là, quand t'arrives, tu passes tes formations, t'es engagé comme contrôleur routier, c'est quoi les conditions?
Lorsqu'ils s'en vont à la formation, nous, les contrôleurs routiers, sont engagés. Donc évidemment, quand ils tombent, ils deviennent des patrouilleurs, ils travaillent 40 heures semaine comme tous les autres. Là, c'est,
Comme animateur de radio, ça? Quand tu rentres, quand t'es nouveau, tu fais fin de semaine?
Oui. Après ça, moi, je fais encore les fins de semaine. Mais ça, c'est la décision.
Après ça, tu fais la semaine. Puis...
Mais le siège est un peu moins injectable quand t'es contrôleur routier versus animateur de radio. On va comparer des pommes avec des pommes.
Il y a un auditeur qui, j'imagine, veut vous dire merci. Il dit, je travaille souvent avec des signaleurs et les gens sont complètement irrespectueux, irresponsables. À leur égard, sans eux, je serais probablement blessé ou mort. Je sais pas ce qu'il fait comme travail, mais en tout cas, j'imagine que ça veut dire merci. C'est vrai que ça doit pas être toujours facile.
Mais là, évidemment, s'il parle des signaleurs, c'est probablement plus les gens qui vont faire la signalisation au niveau des chantiers de construction, par exemple,
ou
qui vont moduler la circulation. Évidemment, ces gens-là font un travail extrêmement important. Puis c'est vrai que c'est pas toujours tout le monde qui respecte là, la signalisation de ces gens-là, mais leur travail est extrêmement important. Puis ils sont là pour assurer la sécurité des travailleurs un peu plus loin.
As-tu des interventions racontables en nombre, des anecdotes qui se sont arrivées, qui t'ont arrivé, mettons, un chargement qui avait aucun bon sens ou quelque chose que tu peux raconter sur nos ondes?
Je peux vous raconter une anecdote qui ne m'est pas arrivée à moi, mais qui m'a été racontée par un de mes collègues, puis je la trouve tellement bonne. Évidemment, c'est une situation où il n'y a pas eu de blessés, donc tout s'est bien passé. Mais ils patrouillaient là, dans le secteur du Bas-Saint-Laurent. Puis, ils sont arrivés sur un transport d'animaux. Puis, le véhicule a perdu une vache. Évidemment, sur la route, sur la 138. Là.
OK.
Donc, évidemment, on s'entendra que c'est pas quelque chose qu'on voit tous les jours. Puis là, faut sécuriser la circulation. Faut réussir à attraper cet animal-là. Mais tu sais, c'était quelque chose là, de voir une vache qui cause à la route là, puis qui est un peu affolée, évidemment, parce que...
On a vécu ça il n'y a pas si longtemps sur Louis XIV à Beauport.
C'est vrai, c'est vrai.
Il y avait une vache, ouais. c'était sauvée de son pâturage, par exemple.
Oui, c'est ça.
C'était
ouais.
sauvée, okay, ouais. Puis était rendue à marcher pendant 4 heures de temps. Là. Mais j'avoue que c'est à 138, c'est un méchant saut, là, c'est une vache.
C'est le genre d'affaires qu'on va voir, évidemment, mais des choses, là, des pertes de chargement, on en a vu énormément. Là, c'est des choses qui sont... Je dirais pas fréquente, mais c'est des choses qui arrivent qu'on va voir. Lorsqu'on fait nos inspections mécaniques, souvent on va tomber sur des véhicules là, tu sais, avec une petite vise grip qui pince la hose à air, qui fait qu'il y a plus de système de freinage.
Encore,
ben on en voit encore, c'est pas régulier.
Des dissènes aussi.
Des dissènes à l'intérieur des hoses. C'est des choses qu'on va voir où il y a une absence de freinage, évidemment là, tu sais, dans nos vérifications. Fait que, moi, j'ai déjà aussi vu un camionneur que j'avais intercepté pour faire une inspection mécanique. Puis quand j'ai demandé au camionneur de donner des petits coups de volant pour vérifier la direction, mais la boîte de direction est tombée à terre. Là.
Okay.
Quand je l'ai montré au conducteur, il est venu blême là, parce que dans le fond, lui, là, dans sa tête, là, il se voyait...
50 pieds plus loin.
50 pieds plus loin, il se voyait perdre la direction de son camion. Là. Fait qu'évidemment, c'est des choses qu'on va voir dans nos interventions. C'est pas des choses qui sont fréquentes. Mais c'est des choses qu'on va voir. Fait qu'évidemment, à ce moment-là, ça démontre l'importance de notre travail.
Je vais vous mettre, mettons, mise en situation, on est le 1er juillet, puis devant moi, il y a quelqu'un qui déménage, puis ça a l'air d'être un lavigueur, là, qui a son camion plein, là, avec le laveuse, sécheuse, puis ça a l'air de pas trop tenir. J'appelle la police.
Ça tient que des tailles rap.
Ça tient que des tailles rap. La police, mettons, j'appelle la police, je peux dénoncer, je donne son numéro de plaque. À ce moment-là, est-ce que c'est vous qui allez être appelé pour aller trouver cette personne-là? Est-ce que ça peut arriver, ce genre de
ça peut arriver. Les policiers peuvent intervenir également. Évidemment, ils ont ces pouvoirs-là d'intervention, oui. Eux aussi. Ils peuvent aussi nous appeler pour une assistance ou encore ils peuvent nous refiler la rondelle, là, tout dépendant. Mais on va intervenir nous aussi parce qu'on va mener ce type d'opération-là. Évidemment, on connaît la problématique du déménagement le 1er juillet. Ouais.
Puis t'emmènes un bon point, Yannick. Dans l'industrie du transport, des fois, probablement beaucoup moins aujourd'hui en pourcentage. Il y a quelques années, il y avait des entreprises qui poussaient les chauffeurs avec des camions non sécuritaires. On se rappellera, il y a eu quelqu'un qui a manqué de frein là, dans la côte de Sainte-Anne puis qui en a perdu la vie. Il y a un service chez Contrôle routier qui existe pour faire la dénonciation. Si tu pars avec ton camion, puis c'est totalement anonyme. Ça veut dire que je pars avec un camion ce soir, Je suis en direction de Toronto, mais je sais que les freins, c'est fini. Les tires, c'est fini. Je suis pas sécuritaire. J'appelle à ce numéro-là, puis on va peut-être me donner un rendez-vous d'une balance ou quelque chose comme ça. Puis c'est là où on va procéder à l'analyse du véhicule, puis au dire de ce que j'ai dit, puis on va émettre une infraction ou on va, ce qu'on appelle dans le milieu, grounder le camion. Là, c'est qu'on va le mettre hors service. Puis ça va faire... des fois, tu sais, c'est dur pour un camionneur de dire non. C'est dur parce que le boss dit hey, envoyez. Ça presse, là, c'est urgent, le client veut ça demain matin. Oui, mais c'est ma vie qui en dépend. Je vois pas avec votre vie là pour 45 cents, 50 cents du mille.
Je pense que ça a changé beaucoup la mentalité, hein, au niveau de oui, vous avez un échéancier à respecter, mais je pense que la sécurité est rendue plus importante que la livraison. Oui, c'est important quand même, là, mais.
Ça dépend.
Mais...
Tantôt, quand j'ai dit que ça gossait, là, les camions qui se dépassaient, il y a un auditeur qui m'a dit ça peut représenter 1000 piastres peut-être plus par année, le 102 versus 105 km/h. Faut pas exagérer, là.
Ouais. À un moment donné, tu sais, on est-tu professionnel ou on l'est pas? Ouais. Si on se dit qu'on est des professionnels là.
Il faut se tenir aussi, camionneur.
Il faut agir en conséquence. Là. C'est bien beau de dire, ouais, mais c'est moi qui vais gagner la course. C'est correct. Mais, tu sais, à un moment donné, pour les usagers qui sont en arrière, qui trouvent ça bien plate, il y en a un qui peut se tasser d'un deux, là, tu sais. Mais c'est parce que le problème, c'est qu'on arrive souvent, des fois, à l'arrière d'un véhicule qui roule moins vite. On veut le dépasser, oups, il a trouvé un petit peu de power. Il roule une petite affaire plus vite, t'es plus capable de le dépasser. Fait que là, tu dis, bon, on retourne en arrière. Puis évidemment, il arrive ce qui arrive. T'arrives en arrière, puis là, oups, il vient de ralentir, puis tout ça. On dirait que c'est une guerre à n'en plus finir, mais quand on dépasse, celui qui est dans voie de droite devrait toujours ralentir d'un kilomètre heure. Ça prendrait peut-être 25 secondes. Le camion est dépassé. Il n'y a personne qui est frustré.
Mais ça, c'est aussi de ralentir, de laisser passer.
Mais oui, on laisse passer, il rentre. On a perdu. Écoute, c'est 1000 à 2000 par année. En tout cas, je ne sais pas d'où viennent les calculs. Là. Mais moi, je pense qu'à un moment donné, pour ta sécurité, pour la sécurité, pour les gens qui vont être frustrés en arrière, ah, ça coûte quoi, là? 30 secondes de ta vie, c'est réglé. Bonsoir.
Quelqu'un qui a un bon point, juste avant de vous laisser partir, là, au niveau des matières dangereuses, ceux qui transportent des camions citernes avec l'essence... C'est quand même sécuritaire, là, on se cachera pas. Il y a quelqu'un qui dit justement, pour démontrer à quel point les accidents sont rares versus le risque...
Vous, ça frappe l'imaginaire. Souvent, ouais. On a tendance à penser que c'est dangereux, le transport de matières dangereuses, justement.
Combien de compagnie transporte du pétrole actuellement dans la simple région de Québec. Vous allez qu'à la raffinerie de l'autre côté, il y en a une tonne. Il y en a énormément. Est-ce qu'il y a des accidents tous les heures, tous les jours ici dans la région, puis c'est des millions de litres qui se transigent quotidiennement?
Mais c'est comme les avions qui décollent. Hein? Ouais. Il y en a des milliers, des millions à travers le monde. Mais c'est grand, pas toutes. Ouais. C'est ça.
Mais simplement en terminant, dire que là, le déneigement s'en vient, là. Soyez aussi correct, là, tu sais. Soyez dans les normes. Puis vérifiez aussi les chargements. Puis faites surtout attention aux piétons. Les piétons, là, sur les trottoirs, tout ça. On est pressé parce que des fois, on est payé au voyage. On en fait 10 de plus d'enveillés. C'est 10 plus payant. Il y a des piétons sur les trottoirs. Puis les lumières oranges, là, bien rouges, là, à un moment donné, il faudrait peut-être penser à la sécurité.
Benoît Thérien, Truck Stop Québec, toujours un plaisir.
Merci.
Merci beaucoup. Jonathan merci. Beauvais, Contrôle routier Québec, merci également de vous être déplacé.
Ça fait plaisir.
Puis on invite les gens encore une fois à être prudents sur nos routes.
Tout à fait.
Excellent.
Merci beaucoup.
On s'arrête quelques instants et au retour, la conclusion de l'émission. On est en route vers où elle est en direct.
Marceau. Marceau le soir.
Radio X.